Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. Quelles sont les causes du décrochage scolaire? Quelle est l'ampleur du phénomène en Fédération Wallonie-Bruxelles? Et surtout, quelles sont les pistes à suivre pour développer une politique efficace de raccrochage scolaire? Ce sont les questions dont nous allons débattre ce soir en présence de deux invités. Maurice Cornil, directeur de Parenthèse, un service d'accrochage scolaire, un SAS, comme on dit. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Christine Mironchik, médiatrice scolaire en région bruxelloise. Bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Madame, Monsieur, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTBF pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Avant d'entamer ce débat, je vous propose de faire un rapide tour de l'actualité laïque en Belgique et dans le monde. Cette semaine, nous resterons pour une fois exclusivement en Belgique pour vous annoncer la tenue de plusieurs événements laïques grand public. Commençons par le Centre d'action laïque en province de Liège qui organise en ce moment une quinzaine culturelle intitulée « La résistance des femmes en acte ». Au programme, conférences, concerts, expositions, projections, le tout évoquant le combat des femmes pour obtenir des droits égaux à ceux accordés aux hommes. Pour plus d'informations au sujet de la programmation de cette quinzaine qui se terminera le 26 octobre, une adresse mail www.calliège.be. Ce jeudi 23 octobre, à Libramont, le CAL Luxembourg et le Mouvement d'Action Paysanne vous proposent une soirée consacrée au thème de la criminalisation de la contestation paysanne. Une activité organisée dans le cadre de la campagne d'éducation permanente « Contester est un droit », une campagne organisée cette année par le Centre d'Action Laïque. De nombreuses activités sont prévues au cours de la soirée, théâtre, concerts, ciné-débat. Pour plus d'informations, consultez le site www.cal-luxembourg.be ou appelez au 061 22 50 60. Christine Mironchik, vous êtes médiatrice scolaire en région bruxelloise, on l'a dit en introduction. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer cette émission en expliquant au public quel est le rôle de ce service de médiation scolaire?
Le service de médiation scolaire est né il y a une vingtaine d'années. Et j'y fus invitée à participer à ce projet qui, au départ, était un projet cobaye, dirons-nous, et qui, depuis le décret 1998, fait partie du décret discrimination positive. Et donc, le service de médiation actuellement dans lequel je travaille, c'est un processus, dirons-nous, de dialogue, instauré dans les écoles à discrimination positive, oui. Essentiellement, malheureusement, dirons-nous.
On sait combien d'écoles, plus ou moins, en Fédération Wallonie-Bruxelles ?
Nous sommes à peu près 56 médiateurs scolaires établis dans la communauté française, à Bruxelles-Capitale, parce que nous sommes considérés comme les médiateurs internes. Il existe une trentaine de médiateurs externes en Wallonie.
Donc vous, personnellement, vous êtes assigné, si on peut dire ça comme ça, dans un établissement scolaire ?
Je suis assignée dans une école de Bruxelles et mon rôle est essentiellement, dirons-nous, c'est d'établir un lien de parole, de construire ou de reconstruire du lien avec l'école, avec les familles, avec tous les acteurs de l'école, sous le sceau de la confidentialité, empreint du secret professionnel, et d'instaurer dans l'école, dirons-nous, une forme de culture de dialogue.
Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ou deux exemples de cas que vous avez à gérer, justement, de quel type de médiation s'agit-il?
On parle souvent d'aborder, on dira, les conflits, les situations de conflit générées entre élèves, entre profs et élèves, ou dans l'école, dirons-nous, également avec les autres partenaires de l'école. Mais ça peut être aussi un problème de décrochage scolaire à l'intérieur même de l'école. Est-ce que c'est une, à moins de décoder évidemment avec le jeune, est-ce que c'est une démobilisation, est-ce que c'est se désaffilier totalement de l'école? On abordera peut-être le mot de phobie scolaire.
Oui, on développera la notion.
Mais c'est aussi le mal-être que le jeune a dans ce désordre que moi j'appelle un chaos. institutionnelle, dirons-nous aussi.
On aura l'occasion de revenir là-dessus en cours d'émission, oui. Mais quelle est en fin de compte la plus-value de ce service de médiation scolaire par rapport au centre PMS par exemple?
C'est l'omniprésence, donc j'ai un horaire complet de 36 heures dans l'établissement scolaire. C'est d'avoir des liens avec tous les partenaires extérieurs à l'école et aussi tout ce qui fait partie de l'école, à savoir les professeurs, la famille, les
Vous êtes donc la personne de confiance, tant pour les élèves que pour les professeurs, que pour la famille. On sait qu'on peut compter sur votre confidentialité et votre présence permanente également dans l'établissement.
C'est ça. On dira une personne ressource, omniprésente, qui peut être à l'écoute, puisqu'il n'y a pas de prescription de travail. Et donc, je travaille en toute liberté, le jeune aussi. Donc, on n'a pas à me soumettre une situation si le jeune n'est pas désireux de le faire. Et moi, dans le même sens. C'est ça qui est intéressant aussi.
Vous êtes donc bien un service et pas une contrainte.
Tout à fait.
Très bien. Maurice Cornille, vous êtes le directeur d'un service d'accrochage scolaire qui s'appelle Parenthèse. Est-ce que vous pouvez à votre tour brièvement nous expliquer en quoi consiste votre travail et en quoi l'approche diffère éventuellement de celle de Christine Méranchik qu'elle vient de décrire ici?
Mais donc, pour rebondir un peu sur ce que Christine disait, ce sont aussi, il y a une douzaine de services d'accrochage scolaire en Wallonie et à Bruxelles. Au départ, ce sont des initiatives locales, d'associations ou même de personnes, de particuliers, face à une situation de fait qui est qu'il y a un certain nombre de jeunes à l'adolescence qui désertent l'école ou qui sont en rupture avec l'institution scolaire. Et l'idée, c'était d'apporter une réponse à cette situation en espérant que ces jeunes, à terme, bien qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire et qu'ils ne fréquentent plus l'école, ils retournent dans les meilleures conditions possibles. Alors aujourd'hui, ce sont 12 institutions agréées qui accueillent chacune une vingtaine de jeunes simultanément. Et leur mission principale est de leur apporter une aide à la fois individuelle pour toutes les questions plus personnelles qui ressortent de l'aide à la jeunesse, et puis aussi une aide pédagogique pour tout ce qui ressort de la question des apprentissages et de l'adaptation au milieu scolaire. Et donc, il y a une des différences avec Christine, c'est que moi, je me positionne avec mon équipe en dehors de l'école. Et l'idée, c'est d'accueillir des jeunes qui sont, pendant tout un temps, je disais un peu les enfants des rues, même si à Bruxelles, il fait froid et donc ils sont plutôt dans leur chambre. Mais l'idée, c'était de leur proposer un lieu transitoire, c'est pour ça que ça s'appelle un SAS au départ, avant une reprise d'études, si possible, et l'idée évidemment si possible, c'est qu'ils se construisent un projet de vie, ce qui est toujours difficile, surtout à l'adolescence, et en lien avec ce projet de vie, un projet d'études.
Donc c'est-à-dire qu'ils sont en totale rupture avec la régularité scolaire, ils ne vont plus à l'école tout simplement quand ils viennent fréquenter Parenthèse, les jeunes qui viennent frapper à votre porte ou qui acceptent de faire un bout de chemin avec vous sont des jeunes qui sont en totale rupture avec le système scolaire.
C'est ça, tout à fait. Donc en fait, il y a, je dirais, à peu près deux cas de figure généraux, soit des jeunes qui sont ce qu'on appelle en décrochage scolaire lourd, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus du tout à l'école. Pour citer un exemple, je me souviens d'avoir accueilli un jeune de 15 ans ça faisait un an qu'il n'allait plus à l'école. Mais les parents ne s'étaient pas rendus compte parce qu'il partait, il quittait le domicile familial tous les matins et il allait passer, je pense, la journée dans un centre commercial ici à Bruxelles et puis il rentrait le soir. Et les parents, qui avaient de leur côté beaucoup de difficultés, avaient l'impression que leur enfant allait bien et donc ne se posaient pas plus de questions que ça. Et puis un jour, il y a un intervenant social qui a remarqué que, au fond, cet enfant n'était pas scolarisé. Et donc on nous l'a orienté avec l'idée de faire un travail un peu de prendre beaucoup de temps en fait, pour voir avec lui qu'est-ce qui a généré cette situation et comment est-ce qu'on pourrait faire pour y répondre. Et on s'adresse aussi à des jeunes qui sont en exclusion scolaire. Il y a des jeunes qui sont régulièrement exclus des écoles. Et l'idée, c'est de leur proposer de rompre avec cette répétition continue du rejet, au fond, ou de la sanction éducative. Ça dépend comment on voit l'exclusion et du changement d'école.
C'est-à-dire que vous êtes quoi, le dernier filet de sécurité, la dernière option, la dernière chance de se raccrocher tôt ou tard à un circuit scolaire avant de le quitter totalement ?
Bon, je dirais quand on est jeune, et peut-être dans l'aventure humaine, il y a toujours la possibilité de rebondir sur quelque chose. L'idée surtout, c'était d'apporter une réponse qui ne soit la moins stigmatisante possible, puisqu'il existait déjà des possibilités pour les jeunes de ne pas aller à l'école tous les jours. Les deux situations légales, en tout cas, étaient soit un placement en IPPJ, donc sur décision judiciaire, soit un placement pour des questions psychiatriques. Dans les deux cas, d'une part, il fallait que les jeunes présentent évidemment des questions, soit de gros problèmes de santé mentale, soit avoir commis des faits qualifiés infraction. Mais quand les jeunes présentaient un malaise plus, à la fois plus diffus, mais des difficultés suffisamment évidentes pour générer une rupture avec leur scolarité, l'idée était d'introduire une espèce de centre de jour, je dirais, qui les accueille en groupe, mais avec un suivi individuel de chaque membre du groupe, et qui leur permette de trouver, avec notre accompagnement, des réponses à leurs difficultés.
Christine Mironchik, l'exemple qui vient d'être cité, ou les exemples qui viennent d'être cités, est-ce que vous avez le sentiment d'en fréquenter un certain nombre dans l'école où vous travaillez, avant justement que ces jeunes ne dérapent ou ne quittent complètement le circuit scolaire ? Est-ce que c'est un phénomène dont l'ampleur est réellement importante, ou est-ce qu'on l'exagère un peu ?
Il est important. L'école, lieu de transmission de savoir, est plutôt devenu, pour certains de ces jeunes, un lieu de rupture. Donc des difficultés qui s'amoncellent, que ce soit la précarité, puis là on pourra peut-être en parler, mais il y a aussi l'école qui joue les effets d'exclusion parce qu'elle est inégale et amène elle-même, elle travaille ces inégalités-là. Et donc un jeune, à un moment donné, se trouve tout à fait désœuvré, ne trouve plus une piste parce que les professeurs non plus n'en ont pas. Donc je dirais qu'il y a il y aura un travail de prévention à faire. Et quand nous constatons, comme le dit Maurice ici présent, il rattrape le jeune pour en faire quelque chose et lui proposer un projet, il y a parfois, quel est le sens encore d'aller et de fréquenter une école qui ne propose que ces inégalités-là?
Vous avez le sentiment, en fin de compte, que l'école est génératrice elle-même de décrochage scolaire? Comment ça fonctionne?
Donc il y a déjà, ces jeunes arrivent déjà avec des casseroles, dirons-nous, donc un parcours chaotique.
Quel type de casserole, par exemple?
Donc des échecs qu'ils ont déjà par rapport à la réussite du CEB, par exemple, la non-maîtrise de la langue française, la non-fréquentation des écoles de devoirs, s'il y en a, cette curiosité qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus, et aussi la chance, la main qu'on ne tend pas facilement. On rentre dans un système, et le système scolaire est présent pour réussir. Et peut-être qu'il y a une précipitation, et il n'y a peut-être pas assez la culture de la lenteur pour pouvoir réussir chacun à son rythme. Et en tout cas, dans certains quartiers qui concentrent toutes ces difficultés. Donc des faiblesses, des souffrances personnelles, des fragilités, dirons-nous. Et donc le service de médiation accueille, bien sûr, puisqu'on accueille d'une façon inconditionnelle, on a une écoute active. Et donc, nous devons de travailler avec les relais. Bien sûr, d'abord, faire un point avec l'école, bien entendu, mais c'est surtout toutes les autres difficultés que nous sommes amenés à travailler. Et le jeune doit exprimer cette volonté aussi. Ce n'est pas au service de médiation à trouver des pistes de solutions. C'est en parler beaucoup avec tous les acteurs et les...
Je voudrais revenir quelques instants sur les causes du décrochage scolaire. Christine Mironchik, vous nous dites que l'école est elle-même génératrice de causes qui peuvent aboutir au décrochage scolaire. Maurice Cornil, est-ce qu'il existe un profil particulier, une conjonction de facteurs qui permettent de dire que voilà, ça c'est un profil qui va typiquement se retrouver dans une exclusion, dans un décrochage scolaire, ou est-ce que les causes sont multiples? Est-ce que les choses sont plus subtiles que ça?
Mon sentiment, mais ce n'est donc pas une analyse, mais c'est que les causes sont multiples. Oui, les causes sont multiples, mais il peut y avoir en même temps des causes très différentes. Ça peut être un mal-être personnel en relation avec les pairs à l'adolescence, avec les camarades. Ça peut se passer. Il peut y avoir là un phénomène de rejet d'un groupe. Qui a des conséquences sur l'institution école. Il peut y avoir des difficultés au niveau des apprentissages. Je pense que ça, c'est très important. Il est évident, quand on doit se lever tous les matins pour aller au cours à 8 heures et qu'on a perdu le fil ou qu'on n'a pas les outils suffisants dans des classes qui sont parfois trop nombreuses et les enseignants n'ont pas toujours le temps. Donc là encore, la question est complexe. Mais quand je me souviens d'élèves qui étaient face à un tableau et qui me disaient « Ben voilà, Maurice, moi, ça m'échappe complètement, je ne comprends rien. » Voilà. Et puis il y a d'autres situations, je dirais, familiales ou personnelles, qui font que il y a d'autres urgences que celles de l'école. Et enfin, il y a, je dirais, la question de quelles réponses les jeunes trouvent à l'école par rapport à leurs difficultés. Je pense qu'on peut aussi se poser la question comme ça en tant que professionnel de l'éducation. Enfin, je ne sais pas si Christine se positionne comme ça. Moi, j'ai tendance à dire que je suis un peu... Mon métier, c'est éduquer, mais je pense qu'il faut apporter des réponses aux difficultés des jeunes. Et je pense que ce serait bien qu'on leur apporte davantage de réponses à toutes leurs difficultés au sein des institutions scolaires.
Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Ça dépend des écoles, je dirais, mais globalement, il reste une tradition de transmission de savoir et d'évaluation de cette transmission qui est le cœur du dispositif, qui vaut ce qui vaut. Mais il est sûr que quand on a devant soi des élèves qui sont en grand mal-être, cette transmission n'opère pas.
Christine Méranchik, vous parliez tout à l'heure de la notion de phobie scolaire. C'est un phénomène qui est répandu. Et d'abord, en quoi consiste-t-il exactement ?
Ma définition est celle du refus de l'école telle qu'elle est. Donc on a tous une définition de l'école avec un grand E. À partir du moment où l'école, pour ces élèves-là, en tout cas, ou ces élèves que je rencontre, ne voit dans l'école qu'une transmission d'inégalités. Puisque on rentre dans l'école en n'ayant pas terminé l'école primaire, on n'a pas réussi son CEB... On rentre dans un système, le premier degré différencié.
Mais quand vous dites que, quand on appelle ça de la phobie scolaire, c'est quelque chose quasiment pathologique.
C'est ça, c'est un dégoût. Ces élèves-là ne l'expriment pas comme tel.
Il faut quoi? Une approche thérapeutique pour régler le problème?
Thérapeutique peut-être non, mais peut-être ouvrir l'école et ne pas que l'école concentre toutes ces inégalités-là. Ces écoles se sont situées dans certains quartiers, déjà avec une précarité énorme. Si la situation des primo-arrivants, la non-maîtrise de la langue française ou d'une autre langue nationale, le manque de moyens, qu'ils soient financiers ou de personnes, dans l'école. Et on ne peut pas remettre tout sur l'école elle-même. Quand on parle du projet finlandais... On oublie qu'on a d'abord travaillé dans les quartiers pour arriver au système optimal que la Finlande nous offre. Et dont
qui est toujours cité en exemple.
Et tout le monde prend l'exemple. Mais ce n'est pas la même situation. Reykjavik, ce n'est pas Bruxelles.
Helsinki.
Voilà, ou Helsinki. Voilà, merci. Donc voilà. Donc là, il y a quand même des situations qu'on devrait peut-être revoir. Et l'accrochage scolaire, c'est vraiment le mot. Il faut peut-être bannir le mot décrochage, parce que si on dit décrochage scolaire, on parle aussi de décrochage familial, décrochage social, ministériel ou institutionnel.
Vous insistez tous les deux d'ailleurs là-dessus, sur la notion d'accrochage scolaire, et ce n'est pas un hasard, Maurice Cornille, si le SAS, est un SAS, un service d'accrochage scolaire. Justement, est-ce que c'est un changement de paradigme, un changement de philosophie que d'approcher la question du décrochage scolaire sous l'angle de l'accrochage scolaire? Qu'est-ce que ça nous dit de la méthode et des valeurs qui sont mises en œuvre?
Mais en tout cas... Oui, c'est un changement de paradigme, j'aurais du mal à vous répondre. Ce que je peux dire, c'est que l'idée, c'est de mettre les jeunes en projet. Et souvent, ils en ont un. La question est de savoir s'ils pensent qu'ils vont s'épanouir et construire leur projet en dehors de l'école, ou parfois je dirais, je risquerais de dire malgré l'école et toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à l'école. Et donc la question de l'accrochage ou de la reliance est à la fois une question d'éducation à l'interaction sociale, de reliance, de mise en projet et de vie au quotidien, parce que les adolescents, il y a aussi, à mon sens, un sentiment d'urgence. Et c'est sans doute légitime, voilà, c'est le moment de vivre aussi autre chose que ce qu'on a vécu à l'école primaire, les premiers amours, l'importance de l'amitié, les questions familiales qui changent, l'individualisation par rapport à la famille. Il y a tout un phénomène, indépendamment, je dirais, des apprentissages académiques qui sont fondamentaux et qui vont déterminer tout le devenir de ces individus. Donc, moi, je relierais la question, pour répondre à votre question, d'accrochage à la question d'accompagnement, qui me semble fondamentale. Et avec mes collègues, notre idée, c'est pas tant d'ailleurs de poser un diagnostic sur une phobie ou une difficulté spécifique, mais bien, si je rebondis sur votre analogie propre au secteur de la santé, proposer d'emblée une thérapeutique, c'est-à-dire un travail d'accompagnement avec l'idée fondamentale qui est que c'est le jeune qui va trouver lui-même les réponses à ses difficultés, mais qui ne sera pas seul. Et que même en situation de rupture, parce que je pense qu'on peut se dire que les ruptures, on les vit tous dans nos vies, pourquoi pas les adolescents, pourquoi ne pas rendre ou en tout cas envisager comme légitime certaines ruptures à l'adolescence qui permettent de rebondir et de passer à autre chose. La question, c'est celle, dans ces cas-là, de l'accompagnement et de ne pas laisser les individus seuls et livrés à eux-mêmes.
Christine Muranchik, vous avez l'impression d'avoir des jeunes parfois qui sont fatalistes quant à leur avenir scolaire notamment, et justement, est-ce que l'enjeu de votre travail n'est pas de les convaincre qu'ils ont encore les moyens, des leviers à disposition pour agir eux-mêmes ?
Ils le sont parfois. Mais je pense que, justement, je suis là pour essayer avec eux de décoder d'abord ce qu'ils ont envie de me dire quand ils sont découragés, désœuvrés et qu'ils sont hors cadre scolaire. Donc la première chose, c'est essayer de les rattraper et de retrouver sens sur leur, comme disait Maurice, sur leur projet. Et de travailler avec les parents peut-être aussi. Se dire, tiens, est-ce que les parents aussi sont-ils... font-ils partie du projet ? Est-ce qu'il n'y a pas une reproduction de ce que les parents ont vécu et que le jeune, finalement, fataliste, accepte, oui, c'est comme ça à la maison. Donc il y a peut-être lieu aussi d'assouvir les besoins primaires de ces jeunes. Des jeunes qui vont travailler avant de venir à l'école, qui se demandent comment on va nouer les deux bouts et s'il n'y a pas une situation d'emprisonnement du grand frère ou des parents.
Vous dites les jeunes qui vont travailler avant d'aller à l'école, ce sont des cas fréquents, ça ?
En effet. Beaucoup de jeunes travaillent pour payer leurs études.
On parle des secondaires, là, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. Des jeunes vont travailler
le matin,
parfois le soir ou en fin d'après-midi. Donc là aussi, font le pas de côté, non pas parce qu'ils n'aiment pas l'école, mais parce qu'il y a là une situation, une contrainte, une obligation pour aider maman, papa, l'handicap d'un des deux. Donc quand je parlais vraiment de concentration, il y a vraiment des écoles qui concentrent toute une série de petits ou grands handicaps, dirons-nous, et qu'il y a lieu peut-être là d'aller vers et d'analyser.
Et en tant que médiatrice scolaire, vous avez le sentiment d'être suffisamment équipée pour pouvoir être réellement efficace dans votre travail, ou est-ce que vous vous sentez parfois un peu démunie ou isolée dans votre travail ?
Non, du tout. C'est-à-dire que bon, ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant que je fais ce travail-là, que j'aime beaucoup, qui est très différent, parce que les vagues successives, notamment de jeunes, il y a aussi la complexité des réformes scolaires, auxquelles il a fallu s'adapter, expliquer, clarifier, et qui peut-être déconnecte un petit peu plus les jeunes et les parents dans ce parcours, dans leur cursus.
Vous pensez à quelle réforme quand vous dites ça ?
Ne pas redoubler dans le primaire, alors que ce sont des jeunes qui n'ont pas maîtrisé la langue. Accéder très très vite à l'enseignement secondaire, des jeunes qui n'ont pas terminé le primaire et qui accèdent à l'enseignement secondaire. Mais il leur manque cette confiance qu'ils ont envers un instituteur, qui est peut-être la personne référente, il se trouve très très vite face à une équipe de professeurs différents, suivant les réseaux, suivant l'option qu'ils ont choisie. Le but doit être le même, c'est de réussir le certificat d'études de base. Voilà, il y a quand même pas mal de règles. Mais je dirais que les structures et les relais avec lesquels je travaille sont dans le même positif, dirons-nous, que nous.
Maurice Cornil.
Oui, j'avais envie d'intervenir pour dire qu'à côté de notre parole à Christine et moi-même sur les dispositifs, il y a quelque chose qui nous relie, qui me semble fondamental, c'est d'être à l'écoute de ces jeunes. Il faut savoir que moi, au départ, je suis enseignant et donc j'ai appris à faire la leçon.
Tous les deux, d'ailleurs.
Ben, j'ai dû un peu... Alors, il m'arrive encore de faire la leçon, mais je me suis dit aussi qu'il y avait quelque chose de très important qui était d'écouter et donc de permettre à ces jeunes de dire les choses. Il est évident que la plupart des difficultés qu'on a évoquées, que ce soit les phobies scolaires, les difficultés familiales, les difficultés d'apprentissage, prennent énormément de temps à trouver des solutions. Et pour les jeunes, c'est toujours... la solution est toujours aléatoire. Par contre, ce qui aide à la fois, je pense, à porter les difficultés ou à déposer ses valises, comme on a l'habitude de dire à parenthèse, c'est d'ouvrir des espaces de parole. Et c'est pour ça que le projet de parenthèse, je voulais juste en toucher un mot, fondamentalement outille les élèves, les jeunes, en moyens d'expression. Et donc on leur propose de la vidéo, de la photo, des arts plastiques, mais aussi des ateliers d'écriture. Et puis ils ont des entretiens directifs, ils font du théâtre. Et en fait, ce sont autant d'activités dans un cadre très précis qui leur permettent d'une part de dire leur mal-être et aussi de travailler leur imaginaire, qui est la première condition de l'invention d'une vie.
Et une des premières conditions pour participer au projet que vous proposez à parenthèse, c'est d'en avoir envie tout d'abord. C'est ça qui est important de rappeler. Vous ne travaillez qu'avec des jeunes qui en font la demande explicite.
Absolument. C'est sur base volontaire, puisque l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans, mais les services d'accrochage scolaire, c'est une opportunité qui est donnée aujourd'hui aux jeunes parmi d'autres.
Je voudrais vous entendre tous les deux, il reste plus ou moins 2 minutes pour cette émission, c'est assez court. Peut-être une petite conclusion sur un regard plus large sur l'état de notre société en la matière. Vous évoquez, lorsqu'on a préparé l'émission tous les deux, le phénomène de dynamique de relégation. Et on l'a partiellement effleuré tout à l'heure avec Christine Méranchi, quand on parlait justement de l'école qui est génératrice de décrochage scolaire. Est-ce que plus largement, ces jeunes ne sont pas simplement victimes d'une dynamique sociétale ? Maurice Cornil.
Sans doute d'une dynamique sociétale. Ceci dit, ils sont pleins de compétences et pleins de ressources. Moi, je pense que c'est les adultes. Souvent, la relégation scolaire est une question de manque de ressources pour les adultes. Et je plaide personnellement pour que les sanctions soient intégrantes et intègres dans les écoles plutôt qu'excluantes. Ça me semble fondamental. En fait, le jeune qui transgresse les cadres disciplinaires, se met en dehors du cadre, et je pense que le rôle des adultes, c'est de prendre des sanctions qui les réintègrent dans ce cadre.
Christine Méranchik.
Donc on revient finalement à la primauté, je dirais, de la médiation scolaire, qui est de reconstruire les liens avec l'école, et peut-être d'écarter un petit peu tout ce qui entoure et qui fait justement, qui fait défaut. Ce qui manque, faire peut-être un état des lieux, hein, de temps en temps, de refaire une cartographie de ce qui existe et qui n'existe, qui devrait peut-être être reconstruit. Mais en tout cas, moi, je me base surtout sur ce dialogue entre le jeune et toutes les autres structures scolaires.
Merci Maurice Cornil, merci Christine Méranchik d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis. On vous retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même chaîne, pour une nouvelle édition de Libre Ensemble. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.